Un livre, un lecteur, Florence Berthoux, maire du 5e arrondissement.
Bonjour, c'est une émission exceptionnelle parce que je reçois El Mouhmoud, le président de PSL, qui va parler de son livre. Alors, il y a une règle dans cette émission. On vient en règle générale de parler, on vient parler d'un livre qu'on a aimé, mais ce livre est incroyable. Le prénom, parce qu'en fait, l'auteur déjà, tout démarre, mais le prénom, c'est un prétexte, cher El Mouhmoud, pour parler aussi de cette immigration, mais pas que, de culture notamment kabyle. Pourquoi El Mouhmoud d'ailleurs ? Ce prénom rare, j'ai lu.
Oui, alors...
Expliquez juste, et bonjour, puis après je voudrais, au-delà, parce que vous êtes président de PSL, mais professeur, on voit qu'il y a l'enseignement, la recherche, et puis évidemment toutes ces fonctions aussi de consulting que vous avez et que vous continuez à exercer.
Merci beaucoup de votre invitation, et je suis là aussi parce qu'on se connaît, parce que vous abritez dans le 5e arrondissement les institutions, les fleurons de l'université Paris Sciences et Lettres, dans l'ENS, l'École normale supérieure UGUM, l'École de chimie de Paris, l'École des arts déco,
le SPCI,
enfin bon. Vraiment, vous avez, c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés, et je suis vraiment ravi de cet échange. Je suis très fier de cette université que je trouve qui a réussi à casser la frontière entre les grandes écoles très malthusiennes, ouais, avec des tout petits effectifs.
Alors expliquez pour les éditeurs, parce que PSL, ça paraît, pour les non-sachants, on se dit c'est quoi
PSL ? C'est donc dans le cas des créations des regroupements d'universités, et à la fin des années 2000, donc vers 2008-2010, se sont constituées des initiatives d'excellence, enfin en tout cas des institutions qui ont été regroupées et qui ont été sélectionnées par des jurys internationaux comme initiatives d'excellence. Il se trouve, il y a Paris-Saclay au sud, il y a Marseille, et nous, la chance que nous avons à Paris Sciences et Lettres, à l'université Paris Sciences et Lettres, c'est que c'est un regroupement entre toutes les écoles d'ingénieurs, pratiquement, les écoles plus généralistes comme l'ENS, l'école pratique des hautes études, les écoles d'art, le conservatoire d'art dramatique, les arts déco, Malaquais pour l'architecture.
Alors, ils sont partout. Le conservatoire de musique. Vous parlez du conservatoire, c'est dans le 19e arrondissement,
oui,
hein, par
c'est
exemple.
Ça. Bon, qu'on comprenne bien. Le 19e. Hein. Et puis Dauphine, qui est la seule université que j'ai présidée, que j'ai eu l'honneur de présider de 2020 à 2024, avant de prendre la présidence de PSL. Et c'est une université, finalement, de taille moyenne, puisque nous avons 17 000 étudiants au total, mais qui est une vraie université de recherche et qui casse les frontières. Les frontières entre grandes écoles et universités d'un côté, et puis les frontières entre les disciplines.
Bien sûr.
Donc tout ce que nous sommes en train de lancer, la Paris School of Artificial Intelligence, qui a été lancée en septembre, dans les locaux se trouve rue de l'Estrapade, juste à côté de chez vous, à votre mairie, que ce soit la Paris School of Engineering, voilà, qu'on lance en 2026, ou la Paris School of Climate Change aussi, enfin toute une série, on les lance en commun, en agrégeant, en coagulant les compétences interdisciplinaires de nos établissements, qui sont tous complémentaires.
Voilà.
Et l'idée, c'est de mélanger les sciences dures, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot, parce qu'il y a des sciences, les sciences expérimentales et les sciences de l'homme et de la société, ensemble, sur les mêmes sujets.
Et il y a autre chose dont vous parlez pas, monsieur le président de PSL, mais qu'on a tous en tête, c'est que, comme ça, vous rivalisez avec les plus grandes universités de la planète, il faut le dire. PSL
Absolument.
Rivalise aujourd'hui avec les plus grandes universités.
Ah bah elle fait partie des 30 premières universités mondiales. Nous avons encore une ambition de la faire passer dans les 10 premières mondiales à l'horizon de 2035. Nous en avons les moyens.
Oui.
Et nous sommes l'une des premières universités européennes, ça il faut bien le reconnaître, de l'Europe continentale. Et franchement, c'est une université qui s'intègre par des projets concrets entre les institutions membres. C'est pas une bureaucratie avec une fusion,
voilà.
Chaque entité donne de ce cas-là de meilleur.
Voilà, on va pas recruter tout un tas de fonctionnaires pour réencadrer.
On a un directoire que je préside, et je le préside un peu comme soit une équipe de foot, soit comme...
Une
assemblée de village maraboutique de mon village.
Alors, on va y revenir. Alors, vous êtes présenté, je vous ai présenté comme le président de PSL. C'est à la fois énorme, mais Ça ne traduit pas évidemment tout votre parcours très, très riche d'enseignant, de prof d'université. Quelqu'un vous avait prédit 0,01 chance de devenir prof d'université, dites donc.
Oui, c'est ça. Hein? Lorsque je demande, que je suis étudiant à Paris 1, à Sorbonne, et je demande, madame, comment on fait de ma chargée de TD, de travaux dirigés, comment on fait pour devenir professeur d'université? Il faut dire que je lui ai dit, comme monsieur Henri Bartoli, ancien résistant, éloquent dans l'amphithéâtre, un grand professeur que j'admirais énormément, on s'identifie toujours à des gens comme ça, qui avaient une élocution remarquable.
Et donc vous lui demandez,
et elle demande, elle me dit, vous avez 0,01% de chance d'y arriver. Il faut passer le doctorat, après le doctorat, l'habilitation à diriger des recherches, publier dans les meilleures revues internationales, et passer le concours.
Alors, Edmund Mood, vous allez passer évidemment le doctorat, avec succès, l'agrégation des facs de sciences éco. On ne va pas aller trop en détail, parce qu'il faut aussi qu'on parle du livre. Et il y a, à côté de ça, on a bien compris votre métier de chercheur. Vous avez créé des labos de recherche. Voilà.
Oui. Et puis j'étais l'un des premiers économistes en France à travailler sur l'économie de l'innovation en relation avec la compétition internationale, la compétitivité internationale. Donc, j'étais le premier à travailler sur les relocalisations et la réindustrialisation en pleine hypermondialisation dans les années 90.
Voilà. Donc vous allez être connu pour ça et reconnu par toute la communauté. Il y a aussi ce qu'on connaît un peu moins, les fonctions de consultant, de conseil, le centre d'analyse stratégique, enfin ce qu'on appelait avant le commissariat général au plan. Je vais faire un peu de provocation, consultant auprès de l'OCDE, l'ONU, la Banque mondiale, membre du conseil scientifique de la DATAR. Dites donc, cher Helmut, ça sert vraiment à quelque chose tout ça. Parfois, quand on... voit le conseil, le centre d'analyse stratégique.
Le commissariat général du plan, j'avais été recruté par Jean-Baptiste de Foucault quand j'ai été nommé à l'agrégation comme professeur. Il avait regardé mes travaux et j'ai eu la chance de travailler avec lui. C'est quelqu'un d'absolument remarquable. Et c'était très nécessaire à l'époque. Ça fonctionnait comme l'endroit vraiment utile où les partenaires sociaux, les académiques et les entreprises se retrouvaient dans des groupes de travail pour préparer les réformes structurelles
et en discuter. Et les réformes structurelles, vous avez le sentiment que sont suivis.
C'était quand même extrêmement intéressant. C'était une période extrêmement intéressante parce qu'il y avait pas, c'était pas le commissariat du plan avec plans indicatifs, mais en tout cas on se projetait dans l'avenir avec les outils des chercheurs dans le cadre d'un service auprès du Premier ministre qui s'appelait le commissariat général du plan, qui est devenu le centre d'analyse stratégique. Donc, j'étais conseiller scientifique sur la base de mes recherches. C'est l'une des périodes de ma vie. J'ai passé 12 ans commissariat du plan comme conseiller. Très enrichissante. J'ai rencontré quand vous aviez les syndicats qui venaient, quand vous aviez le patronat, quand vous aviez les chercheurs, vous aviez les associations, tout ça dans des grands groupes de travail. Je me souviens, j'avais présidé un groupe que j'avais appelé François Perroux, en l'honneur de François Perroux, sur les questions de localisation des activités et sur les chocs de la mondialisation dans les territoires. Et c'était absolument remarquable d'avoir ça. On a fait des propositions qui ont été suivies, des faits d'ailleurs, à l'époque, par le ministre.
Alors, président de PSL, évidemment, enseignant, chercheur, conseiller, vous avez voyagé dans le monde entier, dans les plus grandes universités, qui nous font rêver, nous, un peu... occidentaux, on voit parfois pas ce qu'on a autour de chez nous, mais dès qu'on dit Princeton, Harvard, Séoul, Shanghai, bon, on a évidemment des étoiles dans les yeux. Et là, vous écrivez un livre, Helmut Mood, qui s'appelle Le Prénom, avec un sous-titre Esquisse d'une auto-histoire de l'immigration algérienne. Moi, je vais vous faire un aveu, j'ai regretté un peu le sous-titre, parce que on se dit comme ça de loin, tiens, ça va être un truc un peu socio-po. Et c'est salé sans lettres, et vraiment ça se lit aux éditions Le Seuil. C'est vraiment bien écrit, et en même temps, c'est plein de pudeur retenue. Et moi, j'ai appris plein de choses. Alors, pour nos auditeurs, déjà... pourquoi vous appelez Helmut Mood?
Justement, alors vous aviez eu raison de dire que c'était un prétexte et pas le texte, parce que mon prénom Helmut Mood est répétitif avec mon nom, il y a une assonance, il y a une seule lettre qui différencie
BD.
Le BD. D'ailleurs, j'ai l'habitude dans les grands, maintenant, que je rencontre parfois des gens dans des dîners en ville, comme on dit, j'explique mon nom et mon prénom. Souvent, franchement, personne n'y comprend rien, donc on ne m'appelle pas. Comme ça, ça règle les choses. Et, donc, et souvent, je dis un peu par humour et par mot d'esprit, c'est l'ordre alphabétique. C'est le B avant
oui,
le D.
Bah, oui, voilà. Oui, c'est une formule mnémotechnique. Voilà. Moi, j'ai retenu la formule mnémotechnique.
Ouais, et quand les gens vraiment ne veulent vraiment pas comprendre, j'ajoute un mot d'esprit dont je m'excuse. Je dis, je fais l'hypothèse que vous êtes alphabétisé. Mais je dis ça à des gens très puissants.
Alors, comment vous voulez qu'on vous appelle?
El Mouhoub. Moi, on m'appelle El Mouhoub.
On dit Mouhoub.
Ça suffit. Voilà. Alors, d'où ça vient? Ça vient de la Kabylie profonde. Donc je suis né dans les années 60, mes parents dans les années 40, et je réexplique tout ça, d'ailleurs toute la première partie du livre, c'est sur la Kabylie. Et dans cette Kabylie, vous aviez une tradition orale, puisque la langue berbère était seulement orale, elle avait disparu
c'est
dans l'écriture,
très important
du fait de... Et toute la structuration sociale et institutionnelle était totalement orale sous la forme de témoignages, etc.
Et la Kabylie... Et qui se transmettent, évidemment.
Et la Kabylie est organisée en villages maraboutiques, les Morabitin, c'est les premiers berbères convertis à l'islam. Un islam soufi, fondé sur... qui a eu une dynamique dans le XVIIe siècle, vraiment fondé sur le soufisme, et très syncrétique, qui s'est appuyé sur les pratiques locales. Bien sûr. En particulier le paganisme, qui était très présent en Kabylie. C'est pour ça qu'en fait, les fêtes de l'hiver.
Alors, revenons sur le prénom qu'on comprenne.
Et donc, les familles étaient appelées comment? On s'appelait El Mouhoub, mon prénom. C'est celui de mon grand-père. La tradition est de donner le prénom du grand-père à l'aîné, au garçon aîné.
Du grand-père?
Du grand-père.
Maternel?
Paternel.
Du grand-père paternel.
Voilà, c'est ça.
Donc la tradition, c'est qu'on donne le prénom du grand-père paternel.
Au premier fils, au fils aîné.
Au premier.
Voilà, au premier fils. Donc, c'est ce dont j'ai hérité. Et ma grand-mère, qui était absolument, qui voulait absolument que j'aie le prénom de mon grand-père, est allée voir le scribe en disant « Tu écris El Mouhoub exactement. » D'où ça vient? C'est d'origine arabe, puisque
voilà.
C'est
un, et ça signifie
ça vient de Wahaba. En arabe, ça veut dire le don.
Voilà.
Et Mouhoub, c'est la forme passive du verbe donner, c'est donc celui qui reçoit le don.
Ouais.
Donc le doué, en gros, voilà. Le talentueux, le doué, etc.
Alors là, c'est sur le prénom.
Et il n'y avait pas de nom patronymique, c'est ça qui est
voilà,
important.
Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre.
Il n'y avait pas de nom patronymique, parce que dans les structures sociales kabyles, vous étiez un tel, donc El Mouhoub, fils d'un tel Ariski, mon père, et ensuite, vous apparteniez à un clan.
Voilà.
Le clan, c'est le descendant du saint. On avait un saint, une zawiya, une école coranique, donc d'origine soufie. Hein. Et puis, on appartient à Hit. Quand vous trouvez à Hit, c'est toujours Kabyle, parce que ça veut dire deux.
Et ça veut dire deux. Mais alors, pourquoi l'émission avançant, pourquoi on rajoute Mouhoud? Parce que c'est ça qu'il faut
justement,
expliquer.
Ensuite, l'administration coloniale, qui avait besoin de structurer cette région qui lui échappait totalement, et qui était très révoltée contre la colonisation.
Ouais.
1846, 1871.
Très révoltée.
Voulait pas de colonisation. Elle était très autonome.
D'une manière générale,
etc.
La Kabylie, quand même,
voilà. C'est un fer de lance de l'indépendance, de la démocratie,
y compris à l'intérieur de l'Algérie, on peut
exactement.
Quand même le dire.
Bon. Et donc, l'administration coloniale française, civile, celle qui est devenue civile à partir de 1870, a voulu absolument connaître les familles, démembrer les familles pour collecter l'impôt et pour contrôler. Et donc, ils ont démembré les clans, qui étaient trop larges, en imposant en 1882 une loi qui s'appelle la loi sur les indigènes musulmans, et pour donner des patronymes. Et ils obligeaient donc les familles, comme dans
donc,
les ménages, à prendre des patronymes.
Voilà.
Et ils dérivaient souvent les prénoms.
Voilà.
Or, le nom ancestral de ma famille, c'est El Mouhoub, justement, depuis les origines.
C'est donc ce qui arrive là. Et bon,
alors,
à un moment donné, c'est
dis.
Tellement compliqué. Alors, on va suivre quand même, parce que je voudrais juste qu'on évoque deux, trois thèmes qui sont vraiment absolument passionnants. À un moment donné, vous dites qu'à un moment donné, vous posez la question d'abandonner quand même ce truc qui est juste un tout petit peu compliqué. Avouons-le, c'est quand même compliqué, quoi. On dit qu'est-ce qu'on va dire? On va dire... Monsieur Mouhoud, on va dire, est-ce qu'on l'appelle par son prénom El Mouhoub, Mouhoub, et vous, à un moment donné, vous expliquez, vous avez, vous posez la question.
Hein, oui, je le porte à la fois comme un sacerdoce, mais comme une promesse aussi. Et c'était très compliqué de le changer. J'ai fait des tentatives. Je suis même passé sur France Inter un jour avec un nouveau prénom, Elias Mahmoud. Et je n'ai jamais pu, parce que finalement, ça transporte, c'est aussi l'objet du livre.
Bien sûr.
Un prénom, ça transporte une histoire, ça transporte aussi des gens qui vous suivent. Donc, dans ma tête, il y a plusieurs personnes.
Et pourquoi vous... Alors, à un moment donné, pourquoi vous dites, je vais écrire un bouquin? C'est cette affaire de transmission
Parce que non, c'est plutôt...
Rendre hommage indirectement, parce que le disiez hors antenne, il y a quelqu'un dont on voit, il y a des personnages formidables, on voit qu'il y a un lien quand même tout à fait particulier avec votre père. Quoi.
Oui, mon père était remarquable, ma mère aussi, mais mon père était quelqu'un de visionnaire, qui a construit son émigration avec une force incroyable. Il nous a fait venir dans les règles de la loi en ayant d'abord un appartement, 1% du patronal, et il a eu un etc. Et puis, avant de faire le regroupement familial dans les années 70, il est allé à l'école du soir pendant 3 ans, rue des Pyrénées, et il a eu le certificat d'études en 3 ans.
C'est quand même incroyable. Vous racontez qu'à l'époque, il y a, on dirait aujourd'hui, une diaspora. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs on ne parle pas de diaspora algérienne.
Je parle de diaspora algérienne au sens très large du terme d'ailleurs.
On parle très peu, je veux dire, dans le langage commun.
Sûr,
on va mettre diaspora adossée à quelque chose. Et vous parlez de ce petit hôtel incroyable dans le 20e.
Dans la rue des Maraîchers, oui.
C'est rue des Maraîchers. Il va attendre finalement d'avoir à la fois de l'argent, mais d'avoir préparé les choses pour que vous... veniez.
Voilà, avec mes sœurs et avec ma mère, pour qu'on ait les conditions de la réussite scolaire, en fait. C'était son truc.
On se dit, comment quelqu'un d'extraction très modeste, mais c'est pas le sujet, qui a peu voyagé, finalement, qui connaît pas le monde, il a ça, mais il porte ça en lui dès le départ.
Oui,
tu deviendras quelqu'un, mon fils.
Oui, alors en 1900, dans les années 60, fin des années 60, il revient en vacances et il me dit cette phrase. Il me dit,
parce incroyable.
Que comme il voulait rattraper le temps perdu, c'est ça que faisaient les émigrés de cette première génération, à qui je rends hommage. Je rends hommage à deux types de personnes. Mon père, des émigrés, et d'ailleurs, c'est en exergue du livre, je cite ce livre de Ellis Island de Georges Perec, qui rend hommage à tous ceux qui ont changé, à tous les exilés, etc. Et je rends hommage aussi à l'école de la République.
Ah bah bien
et
sûr,
en fait,
ça on va y revenir.
Et en fait, mon père me dit, il faut devenir quelqu'un en français. Oui. Moi, je ne parlais pas le français et je ne comprenais pas très bien. J'étais un peu apeuré. Et puis, il me dit en kabyle, je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit, la verran, quelqu'un qui a étudié.
Voilà.
Et qui transmet.
Et voilà.
Et c'est ça l'injonction que j'ai eue.
Et vous avez cette injonction-là. Voilà, on sent qu'elle est très...
Voilà.
Vous allez la porter, la porter dans vos tripes. Hein. Oui. Et alors, y a quelque chose qu'il faut bien qu'on comprenne, c'est que c'est encore vrai aujourd'hui, mais c'était particulièrement vrai dans les années 60. On envoie le mandat. La personne qui travaille en France, elle fait vivre
toute sa
famille. Mais c'est pas que l'épouse, les enfants. Enfin, c'est très, très large.
Oui, absolument.
Vous, il y avait un très joli chapitre sur le mandat. Vous faites ça avec humour en même temps, je ne sais plus comment ça se dit.
En fait, ce livre, c'est un peu une histoire, je parle finalement assez peu de moi en réalité, parce que je parle plutôt des autrui, comme m'a dit un de mes collègues du Collège de France, il m'a dit, c'est un hommage aux autrui qui t'ont accompagné, ce cortège d'autrui, et il faut de l'humilité aussi pour pouvoir mettre beaucoup plus en avant les autrui que soi-même. C'était un prétexte. Alors vous m'avez demandé pourquoi je l'ai écrit. Je l'ai écrit parce qu'en fait, j'ai toujours écrit, et d'ailleurs quand j'étais petit, je me souviens, ma sœur me disait la dernière fois, tu me disais, comment je vais faire quand j'écrirai des livres avec ce prénom et ce nom? J'avais 10 ans. Donc quand je dis l'école, c'est extrêmement important, on va y revenir. J'utilise beaucoup aussi les travaux de Camus et de Germaine Tillon dans la première partie du livre. Et Camus disait une chose absolument centrale, il disait « Les Kabyles réclament l'école comme ils réclament le pain
».
Parce que la Kabylie était dans la misère.
Il y a Misère en Kabylie qu'il a écrit en 1939, on a tous
exactement.
Ça en tête.
Hein. Aux éditions du Seuil.
C'est une enquête absolument incroyable, sociale, économique, culturelle.
Et pourtant, dans cette misère-là, la valeur première, c'était toujours l'école.
Voilà. Et le travail.
Et le travail,
bien sûr. Et le travail, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail. Et puis, il y a cette idée, alors vous allez expliquer aussi quand même le mépris de classe... le mépris de classe que vous retrouvez aussi parfois à l'école, il faut le dire, notamment donner envie peut-être à nos auditeurs, parce que ce professeur d'école, à qui d'ailleurs vous rendez finalement hommage,
oui, bien sûr, bien
paradoxalement, sûr. Il vous a sans doute beaucoup aidé,
mais bien sûr.
Y compris dans l'adversité, c'est-à-dire en s'affirmant.
C'est un livre sur la complexité de la vie, et c'est pas du tout... Il n'y a aucune rancœur dans cette livre. Je raconte de manière extrêmement diagnostiquée, en fait, avec un peu de recul, d'humour aussi, parfois, comme on le dit. Et cet instituteur qui m'avait accueilli, d'abord, il y avait le directeur...
Un instituteur pied noir ?
Le directeur, d'abord... Quand j'arrive en France en milieu d'année, au début des années 70, que mon père, qui voulait absolument, qui mettait l'école au-dessus de tout, m'avait acheté un costume-cravate
avec extraordinaire. Alors vous arrivez avec donc, votre petit costume-cravate.
Et les élèves me regardent comme un zombie qui vient du ciel, tombe de Mars.
Mais vous trouvez un camarade.
Et le directeur dit votre camarade vient d'Algérie, ça doit être un cancre. Alors que moi, j'étais premier de la classe.
Ouais.
On parlait déjà trois langues, puisqu'on parlait le kabyle, l'arabe, et l'arabe littéral et le français.
Bon, déjà, ça commence bien.
Et il me met au fond de la classe, il me met à côté d'un vrai cancre qui, lui, m'a sauvé, un fils d'immigré hollandais, la première, et lui m'a dit m'a sauvé d'une certaine manière. Et puis l'instituteur...
C'était Van der Polen.
Van der Potten. Ouais. Et puis il y avait aussi cet instituteur pied noir, monsieur Mayol, et ce monsieur Mayol était évidemment raciste, il me frappait, il reproduisait le rapport à l'indigénat qu'il avait en Algérie, mais en même temps, lorsque une erreur a failli être commise, qui est de m'orienter en sixième de transition, qui une sixième, finalement, qu'il appelait voie de garage. C'est lui qui a dit à mon père et au directeur, non, surtout pas, ce garçon, il a des potentiels intellectuels, il ne faut pas du tout l'envoyer dans cette voie, on va lui faire redoubler son CM1 et vous allez voir, il va partir comme une flèche.
Et d'une certaine manière, il a contribué à changer, sans doute, une partie de
mon destin.
De votre destin.
Ah bien sûr,
c'est pour
bien
ça
sûr.
Que...
Et bon. Je lui rends hommage. Oui, je crois que je ne serais pas là aujourd'hui sans
vous dites,
lui.
vous dites les choses sans acrimonie.
Exactement.
Voilà,
sans
parce qu'en même temps...
Il était.
Aujourd'hui,
il trimbalait un racisme.
Oui, il serait viré de l'école, hein, parce que c'est quand même de
bien
la.
Bien sûr, mais
voilà.
C'était.
Quelques mots sur les femmes, parce qu'en fait, bon, j'avais dit on va lire, mais exceptionnellement, on ne va pas lire un passage, parce qu'on arrive à la fin de l'émission et ce.
Ah, ça passe vite.
C'est tellement passionnant. Donc, vous l'achetez, le prénom, au seuil, et comme ça, les femmes. Alors, les femmes, elles sont à la fois dociles, elles sont à la fois. C'est très ambivalent.
En fait, les femmes, c'est elles qui structurent l'ambition de la famille. Si mon père me donne une injonction de réussite scolaire, ma mère, elle donne une injonction de réussite à toute la famille, à tout le groupe.
Total. Elles ne sont pas toutes comme ça.
Beaucoup. Ma grand-mère, ma grand-mère était une chef de tribu, parce que les hommes partaient.
Ouais.
Et donc, c'est elle qui avait le pouvoir, en réalité.
Ouais.
Et c'est elle qui organisait. Ma grand-mère à Alger, quand on habitait à Alger, à Cuba, elle allait chercher les policiers.
Bon, en même temps, quand elles vieillissent, parfois, qu'elles sont répudiées, bon, c'est quand même pas tout rose.
C'est des structures sociales.
Hein,
La frustration sur l'école. Ma mère n'a pas eu accès à l'école parce que c'était le patriarcat. Alors, elle en a souffert toute sa vie. Donc, il y a toute une frustration des femmes.
Et vous parlez de votre grand-père qui va répudier sa femme et qui se...
Qui se remarie. Tout ça était terrifiant. Enfin, il y a toute une histoire de la femme kabyle qui est très paradoxale, à la fois dominée...
Ou quand elles sont veuves aussi.
Mais en même temps, elles structurent, là, en tout cas dans ma famille, ma mère, par derrière. Quand mon père, il nous fait venir en France, dans cet appartement, dans le 93, à Gagny, il est très content.
Voilà.
Mais ma mère,
c'est HLM, mais elle va dire...
Elle trouve un prospectus, ceux qui connaissent, il y a Albin Chalandon à l'époque...
Les Chalandonnettes, on avait oublié qu'on appelait ça les Chalandonnettes.
Et donc je dis dans le livre, il y a une alliance objective entre ma mère et Albin Chalandon, parce que grâce à ça...
C'est vrai. Enfin, vous avez des parents aussi qui vont être un peu exceptionnels.
Avec et qui disent, on va acheter un pavillon et on va se retrouver...
Avec des femmes exceptionnelles. Parce qu'honnêtement, là, pour le coup, je veux dire, les femmes, c'est un peu...
Mais en même temps, le message du livre aussi, c'est que mon parcours n'est pas exceptionnel, franchement. Il y a plein de réussites. Sauf que dans le débat politique français aujourd'hui, on ne se adresse qu'aux queues de distribution statistique, c'est-à-dire aux pôles minoritaires qui existent.
Ça, c'est le professeur,
qui ont des vrais problèmes. Ouais. Les délinquances dans les cités, ça existe. C'est des facteurs qu'il faut analyser, il faut essayer de réparer ça. Mais les héros du football, mais ceux qui réussissent par l'école comme moi, et très nombreux dans la cohorte, ils sont invisibilisés.
Ils sont invisibilisés.
Voilà. C'est peut-être aussi ça qui était la motivation.
Vous reparlez à un moment donné dans votre livre de 2005. On a l'impression que la fin des années 80, il y a vraiment quand même quelque chose qui se passe.
Oui, tout à fait. Alors, je l'analyse d'ailleurs, d'un point de vue économique, j'avais travaillé sur ces sujets-là. Le capitalisme français connaît une mutation à partir de la deuxième moitié des années 80. Jusque-là, on avait des inégalités des inégalités sociales, mais elles étaient non territorialisées. À partir de la deuxième moitié des années 80, apparaissent les ghettos. Et ça, c'est dû à quoi ? À la désindustrialisation massive. À l'époque, dans les années 70, on avait encore 35% du PIB pour l'industrie.
Vous rendez compte, 35%. C'est
aujourd'hui,
énorme.
Vous savez, on est à 12%, 11,6%. Donc très vite, les usines sont parties, mais les immigrés qui avaient été importés à l'époque ont été fixés sur place, voilà. Assignés à résidence. Donc les poches, ce que j'appelle les queues de distribution statistiques, c'est-à-dire les minorités, là, les poches résiduelles là, qui sont restées là, elles ont fait à faire face à des politiques structurelles qui ont échoué. Aménagement du territoire, échec. Logement, échec. Marché du travail, échec. Et en fait, on affecte à l'école des échecs qui ne lui sont pas dus, qui sont dus à ces politiques structurelles. Voilà. Et donc ça, et c'est ce que j'ai aussi, j'analyse, et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il ne faut pas être masochiste, reconnaître que le modèle français d'intégration, il a marché, et il marche.
Voilà.
Et, sauf qu'effectivement, ces poches problématiques...
Spatiales, on voit bien même vous, voilà. Hein, vous allez aller dans la petite banlieue un peu chic, petit bourgeois, etc. Enfin, il y a aussi tout cet aspect...
Pour classe moyenne, là, oui.
Oui,
dans
les
salons de net, là, voilà.
Super.
Dès que vous pouvez échapper, vous échappez.
Et vous
d'ailleurs, à la fin des années 90, enfin des années 80, 89, période Rocard, il y a eu une croissance de l'emploi remarquable en France, pas seulement grâce à lui, c'est l'économie qui était très dynamique. Et mes collègues Stéphane Bou et Michel Pialou, qui ont écrit un livre sur les violences urbaines et les violences sociales, expliquent comment les quartiers Sochaux-Montbéliard où se trouvait Peugeot se sont déghettoisés grâce à l'emploi. Donc on voit bien qu'il y a des solutions.
Bon, on a dépassé déjà depuis 3-4 minutes, mais c'est tout à fait passionnant. Mon prénom est loin d'être exceptionnel. Il témoigne simplement que l'immigration et les réussites sociales individuelles des immigrés et leurs descendants sont le produit d'une histoire sociale, familiale et culturelle. Lisez, c'est passionnant. Par moments, c'est touchant. Vous parlez... auto-histoire, c'est pas une bio, mais voilà, c'est un peu tout ça.
Ça aurait pu être un roman.
Ça sera pour la prochaine fois. Bon, vraiment, parce qu'il y a plein de choses. Il y a aussi, vous avez épousé une non-musulmane.
J'ai transgressé. Vous êtes construit par la transgression.
À la fois, et vous êtes à la fois très respectueux des traditions et à la fois... Vous transgressez. Vraiment, le prénom, une super découverte sans doute pour beaucoup d'entre vous au Seuil. On aurait pu aussi, vos engagements de jeunesse. Il y a plein de choses. La manière dont vous allez vous construire une pensée autonome. Voilà. Merci.
Merci de votre invitation. Merci beaucoup.